Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On vient d'en prendre plein les yeux. On va essayer d'en faire notre miel avec nos intervenants, donc tous les trois co-directeurs de cet ouvrage à voix multiple. Ben, je vous l'ai présenté, je ne sais pas si ça va être dans l'ordre. On va commencer par Jean-Michel Geneste, conservateur général du patrimoine et notamment auteur de l'extraordinaire atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc que l'on peut consulter juste à côté. Auteur également de Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire, voilà qui nous met déjà un peu dans le bain, avec Boris Valentin, ici présent, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne, et archéologue, évidemment, tous les deux, archéo-anthropologue, et Philippe Grosot, le philosophe spécialiste de l'art paléolithique et de la préhistoire, qui a également publié La philosophie au risque de la préhistoire. Ont participé une cinquantaine d'intervenants. Moi, j'ai eu la chance, je m'appelle Caroline Lachowski, je travaille à RFI, une émission scientifique qui s'appelle Autour de la question. J'ai eu la chance de recevoir Boris et Philippe et Jean-Michel étaient en duplex autour de la question pourquoi et comment repenser la préhistoire et autour de cet ouvrage, évidemment, parce que ces nouvelles frontières de la préhistoire, c'est une manière aussi, j'ai l'impression, de nous ouvrir, d'ouvrir les portes et les fenêtres, finalement, à la fois de manière interdisciplinaire, mais aussi sur la préhistoire des autres, et aussi sur le mot même de préhistoire, parce qu'on va peut-être commencer par déconstruire, et ces frontières, ce sont des frontières nouvelles qu'on va tenter d'ouvrir ensemble. Donc je vais peut-être demander à chacun de nos intervenants, en commençant peut-être par vous, Jean-Michel Geneste, votre définition de la préhistoire. Est-ce qu'on peut encore employer ce mot? Et pourquoi d'ailleurs parler de préhistoire? Préhistoire avant l'écriture, ça fonctionne toujours?
C'est précisément cela qui gêne, de faire une préhistoire qui est quelque chose qui serait avant l'histoire et donc de poser ce jalon de l'écriture, alors que dans la réalité il s'agit d'écriture, elles sont étalées dans le temps et que cette charnière du passage à l'histoire n'est peut-être pas celui qui est le plus important. Tout ce qui se situant avant l'histoire étant l'objet forcément d'un caractère antérieur, archaïque pour le mieux et quelquefois pour le pire autre chose qu'archaïque, vous voyez. Et c'est cela qui peu à peu met mal à l'aise en termes d'utilisation et même en termes de confrontation de langage avec d'autres expressions langagières. On n'utilise plus dans le monde anglo-saxon préhistoire pour désigner cette archéologie des temps lointains. On dira du pléistocène, etc. Mais c'est introduire aussi quelque chose qui serait du rang de la différence méthodologique et conceptuelle dans la pratique d'une discipline qui est historique. Alors, nous pratiquons une archéologie qui est certes des temps anciens, qui est contingentée par son âge, son éloignement de nous, et en même temps la nature de ces vestiges particuliers. Plus on est loin dans le temps, moins on va en avoir en termes de diversité. Pour moi, la préhistoire, il y a un moment qu'elle introduit un malaise du point de vue de cette séparation. C'est un cloisonnement qui est préjudiciable à la pratique et d'une archéologie, d'une vision assez générale de l'archéologie, mais en même temps au sein de l'archéologie, une séparation au sein des sciences humaines que nous revendiquons, dont nous avons de plus en plus besoin, parce qu'on a besoin de ces ponts qui vont nous permettre d'éclairer autrement la préhistoire, donc cette histoire des temps très anciens. Voilà la perception que j'en ai et l'introduction que j'en ferai.
Histoire des temps très anciens, ça vous va aussi, Boris Valentin ?
Ça me va parfaitement. Alors, je vais spoiler le prochain supplément de l'histoire et qui porte sur la préhistoire. Ça va être en kiosque très, très bientôt. Et l'éditorial, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la préhistoire, c'est de l'histoire. Voilà. Donc, c'est une grande victoire épistémologique, hein. Les historiens ne nous ont pas toujours considérés avec beaucoup d'intérêt. Il y a un rapprochement ces dernières années tout à fait intéressant à travers l'archéologie en réalité. Et puisque c'est une histoire archéologique, bien sûr, que nous pratiquons sur l'histoire des commencements, qui me va très bien. Urgeschichte, disent nos collègues allemands, hein, et c'est tout à fait exact. Voilà. Les hasards de l'histoire ont fait qu'on a hérité de ce mot assez mal commode, préhistoire. Lucien Febvre lui-même disait que c'est une des notions les plus cocasses, une histoire qui serait avant l'histoire. Voilà, le langage fossilise des notions et des notions parfois embarrassantes. On continue à l'utiliser et on continuera longtemps à l'utiliser parce que c'est une convention bien pratique, mais il ne faut jamais oublier que ça n'est qu'une convention. Voilà, c'est ça le message principal, je crois, à adresser.
Et le philosophe que vous êtes, Philippe Grosot, quand on dit histoire des commencements, vous seriez le philosophe de l'histoire des commencements ?
Alors, d'abord, je vais abonder dans le sens de mes camarades. Ce n'est pas une nuance, mais c'est une petite précision. C'est que, vous savez, il y avait un philosophe important au début du XXe siècle, qui s'appelait Gaston Bachelard, j'aime beaucoup le lire et le relire, qui a, en 1938, inventé l'idée de concept épistémologique, d'obstacle épistémologique, pardon. Et c'est une très très belle idée à saisir, parce que ça veut dire que pour qu'un obstacle devienne épistémologique, il faut d'abord qu'il ait une vertu. Et il ne faut pas oublier que quand même l'invention de la préhistoire, eh ben, c'est un gain scientifique absolument énorme au début du XIXe siècle. On ne rappellera pas seulement le fait que James Usher, un abbé irlandais, pensait au XVIIe siècle que la Terre était créée 4004 ans avant notre ère. Bon, après, ça a évolué, mais même encore au début, enfin la fin du XIXe, début du XXe, quand on sait les réticences idéologiques et surtout religieuses, hein, c'est-à-dire par rapport à une lecture créationniste, le concept de préhistoire a eu sa vertu. Et pourquoi c'est un obstacle ? Ben parce qu'il s'est précisément retourné en son contraire. Et de fait, maintenant, ce qui est tout à fait frappant quand on s'intéresse à ces questions, c'est qu'il n'y a que les non-préhistoriens qui parlent de préhistoire. Et du coup, ce que fait le concept de préhistoire, qui a été discuté, il est vraiment fixé à peu près par Gabriel de Mortillier en 1883, qui dit autoritairement, préhistoire, c'est avant les documents historiques, d'où on a le modèle de l'écriture. Et c'est terrible parce que, en fait, ça masque une véritable et profonde distinction. Ce dont les archéologues préhistoriens parlent, c'est-à-dire bien plus profonde, la distinction entre les paléolithiques et le début de la néolithisation. Parce que l'écriture, en gros, ça apparaît vers au plus tôt 3005, et la néolithisation, ben, c'est bien avant. Donc le concept de préhistoire, oui, il n'y a que les non-spécialistes qui l'utilisent.
C'est aussi, donc vous l'avez dit, la préhistoire, une science finalement récente, et une science, vous le soulignez aussi, qui a été inventée en Europe au XIXe siècle. Donc les nouvelles frontières de la préhistoire, ça s'élargit aussi évidemment. D'abord, ça serait, si on continue d'employer ce mot, ça serait préhistoire au pluriel, hein, avec un S, et préhistoire des autres, de tous les autres finalement. Jean-Michel, Geneste.
Ce serait bien cela qui nous a séduits et qui était gênant, de ne pas avoir une vision, de ne pas disposer d'un terme qui recouvre assez largement les préhistoires de l'ensemble des populations actuelles. Puisque c'est une science qui est récente, il était tout à fait raisonnable qu'elle puisse s'appliquer à la totalité des populations. Or, dans le contexte qui lui a été donné à la fin du XIXe siècle, ce n'était pas possible et il y restait encore, et il est longtemps resté, des populations, des sociétés qui n'avaient pas de préhistoire. Pour avoir travaillé assez longtemps en Australie, j'ai clairement été confronté au terme, à ce point extrêmement choquant de préhistoire, au point qu'il a été décidé clairement qu'à partir des années 90, 1995 même, certaines publications, le terme n'était plus utilisable sur ce continent. Pour la bonne raison qu'il était couramment utilisé et décrit des techniques de taille du silex, de travail, des comportements même, et qui étaient qualifiés de préhistoriques, semblables à ceux que l'on aurait pu trouver dans d'autres contextes. Et là, on était dans une situation politiquement absolument incorrecte et injurieuse vis-à-vis d'une population qui avait simplement comme tort d'exister dans le centre, dans le nord de l'Australie, d'avoir la peau noire. Et après, ils étaient cependant australiens. Donc, là, le terme devenait extrêmement gênant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est plutôt ce malaise général, cette insuffisance de pouvoir considérer la totalité des approches disciplinaires d'une manière unifiée, mais en même temps de pouvoir s'adresser équitablement en termes d'altérité à tous ceux qui ont vécu dans ces périodes-là, toutes ces sociétés. Une barrière telle que préhistoire était quelque chose qui était incommensurablement infranchissable comme pas. Vous voyez, la rupture entre les dimensions historiques et préhistoriques, on le percevait vraiment comme ça en sciences humaines. C'était très difficile à surmonter. Mais je le dis bien, du point de vue de l'altérité intime, lorsque l'on s'adresse, lorsqu'on étudie des populations, de savoir qu'elles sont dans telle ou telle catégorie. C'est pour ça que c'était la frontière, le compartimentage intradisciplinaire qui devenait un réel problème. À partir du moment où on veut considérer et échanger avec des collègues en tant qu'archéologue, mais parler de façon sensible, humaine, de préhistoire avec des populations qui ne sont pas celles d'ici, qui conçoivent de l'ailleurs, mais quand on est réellement assis sur le terrain en Nouvelle-Guinée ou en Australie, réellement, vous ne pouvez pas utiliser la préhistoire, vous ne pouvez pas vous considérer comme préhistorien. On est quelque chose de plus large.
De plus large, et pour revenir à ce titre, nouvelles frontières de la préhistoire, moi j'ai l'impression que vous cherchez à les ouvrir, tous les frontières, non pas en mettre d'autres, à les ouvrir et même à décloisonner aussi, c'est-à-dire pas de préhistoire, à décloisonner, c'est-à-dire à montrer à quel point il n'y a pas eu absolument un avant, une barrière, une frontière et un après, mais que tout ça est plutôt un continuum. C'est ça aussi qui se dégage de ces nouvelles frontières, quand on enlève les frontières, justement. Maurice, peut-être.
Oui, absolument. Et cette préhistoire des autres, ou plutôt cette histoire des autres, on ne la découvre que depuis peu. Préhistoire des autres, d'ailleurs, je voudrais rendre un hommage à ce colloque assez fondateur, finalement, et récent, hein, qui avait été publié par Nathan Schlanger, colloque de l'INRAP. Donc la mondialisation des recherches, elle est récente. La préhistoire est encore très européo-centrée. D'ailleurs, on a eu un peu du mal à décloisonner de ce point de vue-là. On a surtout des contributions sur l'Europe. On en a une qui est, à mon avis, capitale, de Hubert Forestier sur l'Asie du Sud-Est, et qui montre une toute autre trajectoire historique en parallèle de Chauvet et de Lascaux, hein, avec une autre civilisation qui est probablement la préfiguration de la civilisation du bambou que l'on connaît à des périodes plus récentes. Et donc cette mondialisation des recherches, qui n'a pas encore suscité en langue française, du moins, les synthèses nécessaires, ça va venir, hein. Eh bien, cette mondialisation des recherches, elle nous montre, au moins à partir du paléolithique récent, une diversité historique tout à fait importante. Et du coup, on s'aperçoit que l'image qu'on se fait de la préhistoire, elle est encore très européo-centrée, et du coup, elle est très finalisée parfois, très finaliste, hein, sachant que les formes que l'histoire a prises en Europe sont des formes séquentielles, avec où les agropasteurs succèdent aux chasseurs-cueilleurs, parmi les agropasteurs, des sociétés vont fonder des États, etc. Ce modèle-là est un modèle qui est assez unique à l'échelle du globe. Hein. Si vous prenez l'Afrique, par exemple, il y a des coexistences encore tardives entre des modèles de société très, 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 très différents. Donc il faut déconstruire aussi cette image très finalisée, très téléologique que l'on a de l'histoire quand on l'observe uniquement à partir du point de vue européen. Et c'est ça ce que nous apporte la mondialisation des recherches. Il faut je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Paul Ricoeur ou Raymond Aron, à chaque fois je me trompe, qui disait qu'il faut défataliser l'histoire et la défataliser dès les périodes les plus anciennes.
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que Philippe Grosot pourra y répondre, ou pourquoi est-ce que ça arrive finalement aujourd'hui? On a quand même l'impression qu'il y a une conjonction de choses qui permettent de parler nouvelles frontières, de décloisonner, d'ouvrir, de défataliser. C'est à la fois la mondialisation, l'interdisciplinarité, la préhistoire des autres, mais aussi des avancées des sciences dites dures, de la génétique, qui ouvrent aussi d'autres champs de recherche.
Alors, absolument. D'abord, il est certain de ce point de vue-là que nous vivons une époque absolument formidable, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les sciences dures sont en train de révolutionner en grande part, je pense à la paléogénétique par exemple, hein, qui permet des avancées qu'on n'imaginait même pas il y a une dizaine d'années. Donc il y a cette difficulté, mais en fait cette difficulté, paradoxalement, elle pourrait être enfermante, parce que moi qui ne suis pas archéologue préhistorien, mais philosophe, je m'aperçois très bien que, en fait, cette discipline, elle nécessite des compétences, disons, technoscientifiques, qui font que même les savoirs au sein des préhistoriens sont ultra spécialisés. Et Jean-Michel m'avait fait remarquer un jour, à juste titre, que finalement, le bon préhistorien, c'est celui qui sait s'entourer d'un très bon nombre de savants. Donc, en fait, l'hyperspécialisation factuelle, hein, qui n'était pas présente à la fin du 19e, début du 20e. Là, on avait quoi? On avait des avocats curieux, des médecins, des curés, des lettrés en général, mais ce n'était pas professionnel. Maintenant, ça l'est, et du coup, c'est devenu une technoscience dure. Et donc, c'est un type de cloisonnement contre lequel on a aussi voulu beaucoup lutter, mais qui est très difficile parce que, et c'est pour ça que moi, en tant que philosophe, je m'y intéresse, moi, je m'aperçois que dans ma discipline, et malheureusement, je dirais dans l'ensemble des sciences humaines, très, très peu de gens ont la moindre compétence concernant la préhistoire. C'est-à-dire, le nombre d'historiens d'art qui travaillent sur la préhistoire est très peu nombreux, je le regrette. Le nombre de philosophes, bon, passons. Et c'est ça qu'il faut décloisonner. Donc en fait, ce dont les préhistoriens ont besoin, et je crois que mes camarades seraient d'accord aussi, c'est aussi de rendre public cette aventure-là nouvelle, parce que le paradoxe sinon est le suivant. La préhistoire se veut toujours une étude du processus d'hominisation, mais en même temps, c'est pas une science humaine. C'est une science de l'homme, c'est pas du tout pareil. Sauf que si les sciences humaines ne s'accaparent pas cet héritage-là, eh bien ça reste un savoir confiné entre les mains d'ultra-spécialistes. Et évidemment, le grand public est toujours très ravi d'aller visiter des grottes ou des facsimilés. Il en prend plein les yeux parce que c'est admirable, mais il en sort en disant « oui, c'était beau ». Alors l'idée, c'est qu'il y a d'autres choses à faire que dire « oui, c'était beau ».
À lire ce livre, ça j'en suis témoin, il y a effectivement tellement de fils à tirer, c'est absolument hallucinant. Et pour en revenir aussi sur notre époque, je trouve que ça fait écho à beaucoup de questionnements, où on essaye aussi d'enlever les frontières, mais où aussi, alors on a parlé de continuum, mais vous avez parlé du néolithique, aussi les questions écologique, environnemental, vous entourez aussi d'écologues, enfin la question de l'environnement est extrêmement importante, et ça peut aussi faire écho de manière, comment dire, un peu comme au 19e siècle, ben évidemment on pouvait penser qu'à la préhistoire européenne, aujourd'hui ça pourrait être, ah ça y est, le néolithique, c'est le début de la catastrophe totale, retour au paradis perdu. Or, c'est pas ça non plus, évidemment, mais je veux bien vous entendre là-dessus. Jean-Michel ?
Une partie des thématiques qui aujourd'hui nous préoccupent et que vous venez d'évoquer, touchant à l'environnement, l'écologie, notre relation au monde animal et notre comportement à l'égard du monde animal, les évolutions du climat, pour ne citer que cela, ce qui est énorme, trouve bien entendu des échos dans les données, comment dirais-je, les données objectives et justement la partie dure de la préhistoire. C'est de la documentation qu'aujourd'hui un certain nombre de disciplines savent identifier, lire et extraire. Mais cela ne suffit pas d'avoir les données, et la préhistoire n'est pas là pour fournir simplement des témoignages. Il sait effectivement des types humains antérieurs à Sapiens ont connu des réchauffements climatiques plus ou moins brutaux, des situations, etc. La relation à l'animal a été ceci et cela à l'époque où se développaient des modes de prédation dans des univers dont les modalités économiques étaient essentiellement celles du mode de la chasse, etc. Ce qu'il convient, et c'est bien pour ça que nous avons besoin d'ouverture, c'est que ces données-là vont proliférer, être utilisables aujourd'hui si la préhistoire s'ouvre, si elle ne reste pas le simple savoir ou la simple, même quelquefois, propriété des équipes de recherche ou autres. Et c'est là qu'il est nécessaire de s'ouvrir avec les modalités, avec les modes de pensée actuels. La relation à l'animal, on ne peut pas la régler simplement en disant il y a eu un monde de prédateurs, puis après on a eu un monde de pasteurs, d'agro-pasteurs avec le néolithique. Non, ce fut bien différent. Et dans le regard de ces personnes-là, pour étudier ce qui se passait à l'époque, dans la relation homme-animal, au moment où des chasseurs étaient en train de peindre les parois de la grotte Chauvet il y a 36 ou 40 000 ans, il convient de se préoccuper de la manière dont, sur la base de nos connaissances aujourd'hui, écologiques, des relations des sociétés avec leur environnement, des données cumulées de toute l'ethnologie pendant un siècle et demi aussi, il n'est pas possible de regarder les choses différemment des deux côtés et de s'inspirer des données qui nous parviennent du passé, mais de les assimiler aujourd'hui. Et on sent ce mouvement. Autant Philippe Descola, confronté aux images de la préhistoire, nous dit « je suis gêné, je ne peux pas avec les données que nous avons, il est très difficile de dire si nous avons une société de type animiste ou chamanique parce qu'il y a des complexités, etc. » Mais à côté de ça, on a un Baptiste Morisot qui attaque le problème de la relation avec l'animal et qui dit « effectivement, on doit pouvoir traiter ça. » Ces frontières qui s'ouvrent, ce sont dans ces champs-là un petit peu ces exemples de domaines qui sont en train de changer et qui vont nourrir aussi bien le domaine de la préhistoire que d'autres expressions et disciplines contemporaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis.
Boris ?
Pour revenir au néolithique, écrit au singulier, c'est une erreur. Je disais que le paléolithique récent a été multiple, qu'il y a de multiples trajectoires, et c'est encore plus vrai sans doute pour le néolithique. Je pense qu'on vit actuellement un moment préhistorique. Ce livre est un peu une réponse à cela. Quand on voit justement l'abondance de la production autour de la préhistoire, qu'il s'agisse des magazines, des documentaires, de la demande aussi des créateurs qui se aiment à s'inspirer de la préhistoire. J'ai l'impression qu'on vit un deuxième moment préhistorique. On en avait vécu un à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'apologie du progrès sans limite. Et à l'époque, la préhistoire, qui est aussi un espace sur lequel on projette facilement des fantasmes, était une façon d'indexer sur une prétendue sauvagerie, d'indexer les progrès accomplis depuis. Aujourd'hui, il faudrait éviter une tendance tout à fait inverse et symétrique à la faveur des angoisses liées aux multiples crises que nous traversons, en particulier les crises environnementales, qui consisteraient à projeter sur la préhistoire le mythe d'une espèce de paradis perdu et faire du néolithique, écrit au singulier, le début d'une chute. Là, je fais référence entre autres à un débat, il est dans la salle, Emmanuel Guy, qui a eu Charles Stepanov, un anthropologue qui travaille beaucoup avec nous, avait animé ce débat autour du livre d'Emmanuel et qui rappelait justement lui-même la multiplicité, puisque c'est un spécialiste de l'élevage, la multiplicité des formes d'élevage et donc la multiplicité des néolithiques. Là encore une fois, il ne faut pas tout rapporter au scénario proche-oriental dont l'Europe est tributaire. C'est Philippe Descola lui-même qui nous disait, de son point de vue, les pratiques horticoles en Amazonie n'ont probablement rien changé du rapport des sociétés là-bas aux autres vivants. Alors qu'il est assez probable qu'au moins à partir de l'âge du bronze dans l'Europe que nous connaissons, ces rapports aux vivants ont été assez profondément transformés. Donc encore une fois, il n'y a pas un néolithique, il y a des néolithiques. Et la catastrophe que nous vivons ou que nous allons vivre, et contre laquelle il faut évidemment réagir, elle ne commence pas nécessairement il y a 10 000 ans. Et c'est ce que dit Charles Stepanov dans cette réponse à Emmanuel Guy, que si elle commence réellement il y a 10 000 ans, eh ben, il faut prendre quelques cachets d'anxiolytiques et attendre tranquillement que la catastrophe se produise. Si en revanche, on adopte une vraie perspective historique sur le sujet, et qu'on se rend compte que tous les néolithiques ne conduisent pas nécessairement aux très mauvais choix pris en Europe depuis 3-4 siècles à peu près, eh bien là, il y a un espace pour imaginer des alternatives. Et je termine là-dessus. Moi, c'est le message politique que je déduis des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière à travers les travaux des autres collègues, c'est « zerouer alternatives ». L'histoire, et l'histoire la plus ancienne, nous montre que la multiplicité des trajectoires et la multiplicité des alternatives au schéma dont nous sommes le produit, immédiat. Voilà. Et donc, refuser le mythe de la chute, du paradis perdu, et faire de l'histoire, tout simplement.
Philippe Rousseau, je vais aussi vous faire réagir là-dessus, parce que je trouve ça assez extraordinaire. On est donc dans le pluriel, hein. Ce sont les préhistoires, et je pense que si on fait ça au pluriel, c'est important. Mais ça veut dire aussi que cette science, ces sciences, qui étudient le passé lointain, nous renvoient évidemment à nous, et qu'à chaque fois, au fond, ces nouvelles frontières, ce sont celles qu'on peut ouvrir aujourd'hui.
Oui, alors, ça nous renvoie à nous, et la question de l'animal, pour reprendre à ce niveau-là, En fait, on ne peut pas la traiter indépendamment de la question du rapport à l'humain. Évidemment, et si on le pense comme ça, je suis absolument d'accord avec mes camarades, j'ajouterais quand même qu'il y a malgré tout des préhistoriens aujourd'hui qui situent la néolisation comme le début de la catastrophe. Hein. Je ne vais pas les nommer par pudeur et discrétion, mais enfin, il y en a quelques-uns. Alors, moi, comme Boris et Jean-Michel, j'aime bien le mot « les néolithiques ». Je préfère presque le processus de néolithisation. Mais pour revenir à la question du rapport à l'animal, on ne peut pas penser le rapport à l'animal sans penser le rapport à l'humain. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, en fait, c'est un peu complexe parce que les problèmes que justement vous soulevez viennent du concept qu'on n'a pas encore nommé, mais qui est ce qu'on appelle l'anthropocène. Alors donc, on se demande quand ça a commencé, ce fichu anthropocène. Et comme Boris, je pense que la révolution industrielle est beaucoup plus importante que ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. En revanche, moi qui me suis intéressé essentiellement à la préhistoire via les représentations pariétales, eh bien, j'ai pu constater quand même une véritable évolution et un tournant, et qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que, comme presque chacun sait, on a dans les représentations graphiques, disons, des paléolithiques, un peu plus de 50% de signes, un peu moins de 50% de figurations, et dans ces 50% de figurations, on a 90% de représentations animales. Et les humains qui sont représentés n'ont vraiment pas la tête d'humain, c'est-à-dire que ce sont des silhouettes plus ou moins difficiles. Alors, on peut bien évoquer des statuettes gravétiennes, à un moment donné, des plaquettes de la marche à 14 300 ans, où des premiers portraits sont faits, d'accord. Mais après le processus de néolithisation, quand il apparaît vraiment en Europe de l'Ouest, par exemple, dans le Levant espagnol, autour de 6000 avant l'ère, ou au Sahara central, entre 6000 et 4000, ce qu'on voit apparaître est une relation manifestement différente à l'animal. Et il y a un exemple qui, pour moi, est quasi paradigmatique, que j'aime beaucoup. C'est une scène de traite qu'on voit dans le Sahara central. Jean-Loïc Lequellec l'a beaucoup étudié, et admirablement. C'est la plus ancienne scène de traite connue à ce jour. Alors, quand on voit une scène de traite, vous voyez, on ne voit pas une vache. Et on ne voit pas non plus un homme, on voit une activité humaine. Donc pour moi, la différence, ce n'est pas tellement qu'on est plus ou moins représenté l'animal et on est plus ou moins représenté l'humain, c'est qu'une fois le processus dénéolithisation installé, et ça c'est partout dans le monde, C'est l'humain qui devient le centre des représentations. Et je crois que ça a un écho direct avec la crise qu'on vit, parce que depuis un certain temps, on se prend pour le centre du vivant. Et le problème, je crois, il est là. Donc il y a quand même, vous voyez, c'est compliqué. On ne peut pas dire que c'est la rupture du néolithique, parce que ça n'existe pas. Il y a des multiples exemples contraires. Mais ce qui se passe à partir de 6000, 4000 ans avant l'ère, c'est que nous sommes devenus le centre du monde. C'est-à-dire le centre rayonnant à partir duquel toute la totalité du vivant se laisse voir. La scène de traite, c'est ça. Je ne vois pas une vache, je vois une activité humaine. Et la même chose se trouverait dans les scènes du Levant espagnol. Hein. Vous avez des scènes d'agro-pasteurs. Graphiquement, c'est très intéressant parce qu'avant le néolithique, il y a une différence vraiment graphique très, très prononcée. On parle parfois de naturalisme de la représentation animale. Alors, en fait, c'est un peu faux. C'est très codé, c'est très codifié. Mais quand même, les humains sont très, très grossiers. On pense, par exemple, aux seules représentations susceptibles d'évoquer de l'humain dans la grotte de Lascaux. Bon, ce n'est pas un humain, parce que moi, je n'ai jamais vu d'humain à tête d'oiseau. Donc, c'est un anthropomorphe. Voilà. Et c'est assez caractéristique de ce qu'on montre. En revanche, une fois le processus de néolithisation amorcé, mais vraiment tardivement, hein, 5-6 000, le traitement graphique est identique. Il n'est pas du tout simplifié par rapport aux animaux, pour les humains, et surtout l'humain devient le centre du vivant. Alors là, du coup, il y a quelque chose à penser quand même.
Il y a beaucoup à penser hein, quand on lit votre ouvrage. Il y a beaucoup de fils à tirer. Je sais que j'aimerais bien vous faire intervenir. Vous avez peut-être des questions. On peut faire un premier round de questions, si vous voulez, ou on peut continuer notre débat. Mais est-ce que, jusqu'ici, ce qui a commencé à être dit, de la complexité, de la déconstruction aussi, et des multiples, et de l'interdisciplinarité pour faire l'histoire des commencements, suscite des questions dans le public. On peut vous passer un micro. Sinon, on continue notre discussion.
Un neurobiologiste agriculteur de l'INRA, voilà, en gros, qui s'est intéressé petit à petit de plus en plus au rapport homme-animal. Et alors, vous venez de me dessiller un peu les yeux parce que j'étais pas sur les mêmes gammes tout à fait de date que vous. Bon, 6000 ans, on est au Sahara. Et moi, j'étais resté accroché à moins 10 000 les premières traces de récupération du lait de mammifères grâce aux sciences dures. C'est-à-dire, il n'y a pas de représentation, mais ça se faisait. Et ça se faisait plutôt dans les traces qu'on a en Asie mineure, on va dire. Et j'ai envie de vous dire, parce que vous m'interpellez, moi, l'Homo sapiens du 21e siècle, et qu'est-ce qu'on a fabriqué pendant les 4000 ans là ? On savait récupérer du lait, on faisait du fromage, et il n'y avait pas qu'un seul endroit, on commence à en trouver dans différents endroits. Et vous m'apprenez à l'instant, si c'est ça le rôle des profs, tiens, la première représentation qu'on peut voir, identifier comme telle, c'est pas les lions qui cavalent, les chevaux et tout ça, comme dans mon coin à la grotte Chauvet, non, c'est là-bas, et on est à moins 6000 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Est-ce qu'il y a des hypothèses ? Est-ce que vous, messieurs, qui travaillez, disons, dans le plus mou, des traces que font un cerveau, et ça c'est du mou, qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse que vous vous mettez sous la dent en ce moment ?
Les observations que vous faites sont effectivement là. Le principe de la domestication aboutie et qui se caractérise par l'exploitation des ressources et des formes de l'animal est ancien. Vous citez la date de 10 000 ans pour cette évolution de l'élevage et la récupération du lait. C'est à peu près un petit peu partout. Sinon, ça a pu commencer plus anciennement. Mais et vous faites la remarque que ce dont nous parlions, c'était les images. Je ne sais pas, mais pour l'instant, dans l'espace proche-oriental, il n'y a pas d'image à cette époque-là, mais probablement pour d'autres raisons. Donc la question que vous nous demandez, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Il s'est passé le temps qu'il y a dans cette mosaïque de cultures qui évolue et qui avance, chacune à peu près vers les mêmes objectifs, mais à des vitesses différentes. Et dans des espaces qui sont sans comparaison. Et à ce titre-là, on a du mal, et c'est bien un des problèmes de l'archéologie, d'essayer de mettre en continuité et d'avoir une archéologie qui serait continue et documentée sur le Proche-Orient, sur l'Asie, sur l'Océanie, sur l'Afrique, sur l'Ouest européen et l'Extrême-Orient européen. Du continent nord-asiatique, vous voyez. Et là, on n'a pas ça. Donc, vous posez un jalon, on peut imposer un autre, et je peux vous dire, eh oui, et la culture de la banane dans l'espace africain occidental, c'est aussi la même époque. Et le début de la culture du riz, c'est aussi là. Et qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas, si vous voulez, cette continuité. Donc, on regarde et on est resté sur cet espace ouest-occidental pour parler des images. Et puisque vous êtes proche de la grotte Chauvet, effectivement, à la grotte Chauvet, il y a 36 000 ans, il n'y a que de l'animal. Peut-on interpréter trois représentations humaines à l'intérieur ? Mais attention, ce que dit Philippe Grosso, c'est trois sexes féminins qui sont des symboles graphiques qui évoquent l'homme, et puis à côté, un bas de corps féminin associé à. Donc en tout cas, cet humain-là n'est pas du tout traité comme l'animal, il est traité de façon résolument métonymique, avec ce que signifie au plan langagier la métonymie. Donc on n'est pas dans la figuration de l'humain. Et l'humain complet, non métonymique, non allusif, non traité à travers les subtilités langagières qui accordent ou qui permettent de faire cette abstraction, seulement un sexe, seulement une encornure, seulement ceci, n'apparaîtra qu'effectivement après quelque chose qui a changé du point de vue métonymique. Et je pense là à Jacques Covin qui, dans les années 80, disait avant qu'il y ait le véritable changement et le changement de cette révolution des symboles dans le néolithique, la révolution a été d'abord des mots, des idées, des symboles et une révolution de notre ordre qui était déjà spirituel. Donc, je ne suis pas en train de m'éloigner, mais je suis en train simplement de dire, nous parlons à peu près des mêmes choses. Et il y a 30 000 ans, il y a un environnement animal qui est décrit avec des techniques, avec un luxe de méthodes, d'expressions artistiques. Et il ne deviendra et ne s'attardera à l'humain que plus tard, comme si l'humain, dans ce contexte-là, d'abord de raréfaction numérique, parce que les communautés humaines sont dans un univers qui est minoritaire, l'animal est majoritaire, donc en termes de modèles, de ressources, il supplée à peu près à tout, l'humain est encore à une certaine timidité à se représenter et ne se représente pas. Voilà ce dont nous parlons. C'est une autre manière de regarder et de voir les grandes coupures dans ces temps anciens qui ne sont pas du tout au moment de l'écriture, au passage de l'histoire, mais probablement au néolithique pour certaines ou avant aussi pour d'autres. Et on parle de cette étape de l'apparition de la figuration et de l'évolution de la figuration jusqu'à une époque qui est encore préhistorique. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça suscite d'autres questions ? C'est vrai que c'est... Vous voulez... Oui ?
Non, s'il y a d'autres questions.
Peut-être que ça suscite d'autres questions. Moi, en tout cas, ça m'en soulève une, qui est aussi sur quoi ? Une forme d'humilité aujourd'hui de vous, chercheurs, sur ces temps lointains et ces commencements, parce qu'au fond, on en sait peut-être de plus en plus, on peut le rechercher de plus en plus, mais j'ai l'impression que vous allez de moins en moins à des conclusions. Enfin, est-ce que je me trompe pas ?
Il ne faut pas oublier, malgré les progrès qu'on a essayé de comment dire, auxquels on a essayé de rendre hommage, hein, notamment il y a toute une partie centrale du livre qui s'appelle percées en cours. Hein. Il nous a paru intéressant de montrer, en s'adressant à un public un peu large, au-delà des cercles savants, voilà, les voies dans lesquelles on progresse peut-être plus vite que d'autres ces derniers temps. Bon, après, il ne faut jamais oublier quand même que les bases statistiques en préhistoire sont faibles. Le nombre de sites conservés et bien conservés, surtout à mesure qu'on monte dans le temps, est limité. Ce qui est à l'origine parfois d'une espèce de malentendu aussi auprès de publics larges qui pensent que dans cette science en particulier, il y a des remises en cause absolument permanentes et que finalement c'est un savoir peu cumulatif. Alors il y a même des collègues qui l'ont écrit, ça je trouve ça absolument quasiment indigne. Non, c'est un savoir cumulatif, mais c'est un savoir cumulatif encore une fois sur des bases statistiques faibles. C'est d'ailleurs pour ça que la défense des fouilles préhistoriques relève parfois du militantisme, hein, c'est-à-dire de démontrer notamment à ceux qui prescrivent les fouilles, à ceux qui les financent, qu'un site préhistorique de plus, c'est des éléments de la documentation supplémentaire, la documentation étant rare. Moi, je prends souvent l'exemple auprès de mes étudiants pour essayer de leur faire comprendre d'un mur d'escalade. C'est un mur d'escalade avec peu de prises. Et lorsque tout d'un coup, on a la chance de découvrir une nouvelle prise, que ça soit une magnifique retournée, un site avec une occupation longue et une bonne conservation, eh bien, c'est une prise de plus qu'on ajoute et qui peut conduire parfois à modifier un tout petit peu le chemin de l'escalade. Mais ça ne veut pas dire qu'on retombe par terre à chaque fois, tout au contraire. Tout au contraire.
Philippe, peut-être ?
Juste un petit mot complémentaire sur ce que dit Boris, qui est très juste. Il y a peu de sites, mais il faut aussi tenir compte du fait que les méthodes de fouilles archéologiques ont profondément changé dans ces 50 dernières années. Hein. Il y a eu quand même des temps où on déblayait au bulldozer, et pas seulement pour les couches préparatoires. Dans cet ouvrage, il y a un très très beau texte, très important, l'entretien que Jean-Michel et Boris ont mené avec Ludovic Slimak, qui est une percée en cours extraordinaire, puisqu'en fait, ce qu'il dit, c'est que l'arrivée des premiers sapiens sur le continent européen dans la basse vallée du Rhône pourrait remonter au 55e millénaire. Alors jusqu'à présent, on pensait qu'ils arrivaient vers le 42e millénaire. Mais pour faire ça, ça fait 30 ans qu'il est sur le site. Et donc, vous voyez, en fait, quand on est sur un travail de cette très longue durée, ben évidemment, les données sont rares, mais elles sont extrêmement longues. C'est des équipes de recherche. Il faut aussi une politique publique pour les financer. Il faut qu'elles suivent. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il faut aussi que parfois Ça, c'est... Petite pique aux préhistoriens, on a le droit aussi ? Non ? Allez, non. Il faut aussi que parfois les préhistoriens acceptent de publier leurs travaux, les partager plus. Donc tout ça fait qu'il y a des avancées, il y a des avancées cumulatives, mais c'est quand même long et difficile, et d'autant que les techniques de fouilles sont devenues extrêmement minutieuses.
Est-ce que ça a changé aussi votre pratique et votre manière d'aborder les sujets, le fait de à la fois de vouloir ouvrir ces frontières interdisciplinaires, mais aussi toutes ces nouvelles manières, vous parlez de Ludovic Slimak, de la manière dont on regarde Néandertal, de tout l'apport de la génétique. Est-ce que ça a changé, Jean-Michel Genest, notamment votre approche de votre science ? Est-ce que ça a beaucoup fait évoluer ou est-ce que petit à petit, un continuum, ça s'est ouvert de plus en plus ?
Il est incontestable que, comme nous devons être attentif et vigilant à toutes les ouvertures, tous les progrès, toutes les nouvelles subtilités dans une méthode de datation en paléogénomique, en biologie, en interprétation paléo-environnementale, il est évident que nous sommes peut-être à une époque où, compte tenu du grand nombre de la diversité des publications, on est amené à faire, je regarde mes collègues, à faire une veille intensive, et particulièrement intensive pour ne rien rater. Ce faisant, on change. Et on change plus vite que l'on le pense dans nos mentalités et
par rapport à une compréhension générale de la discipline, indépendamment de la partie et de la sous-discipline du secteur sur lequel on travaille, vous voyez. Et je pense qu'on est globalement, pour ma part, je suis très influencé par ce qui se passe dans les différents domaines sur lesquels je me tiens informé. Il est bien évident que, à la différence de ce qui, je prends un exemple, il y a 20 ans, on considérait encore, sans être européo ou trop ethnocentré, que les premières images de la préhistoire, les premières figurations apparaissaient dans l'Ouest européen et quelque part sur le continent africain, même si on avait des petits décalages de date. Il est clair aujourd'hui qu'il y a des épicentres et des foyers de naissance des images en Indonésie, probablement en Océanie et dans le centre du grand espace eurasiatique, vous voyez. Peu ou prou à la même période, dans les mêmes contextes de pression démographique, d'environnement, il y a quelque chose. C'est une acquisition récente. Les conclusions que nous avons à l'heure actuelle du mouvement des populations grâce aux études, pas forcément de paléogénétique, mais de génomique fine des populations à l'heure actuelle, on a une carte de mouvement des populations qui change. Les travaux de collègues qui travaillent sur les mythes anciens nous font regarder les situations différentes. Et cela influe forcément sur nos interprétations et nos conceptualisations générales.
Et font aussi quoi, remonter le temps encore plus loin, encore plus. Est-ce que du coup, on pourrait dire que les commencements, les premières fois, remontent encore plus? Alors, dans l'espace, on l'a compris, et dans le temps.
Il y a des vieillissements. Par exemple, les premiers outils ont été vieillis de je ne sais plus combien de centaines de milliers d'années. Donc, on est à 3,3 millions d'années, ce qui pose d'ailleurs des questions tout à fait intéressantes. Sur les auteurs, qui ne sont pas des humains au sens strict, au sens où les paléanthropologues l'entendaient jusqu'à présent, mais qui reposent donc la question de savoir ce que c'est qu'un humain. Finalement, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un humain? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence dans cet extraordinaire buissonnement des hominines, comme on dit. Voilà, et qui, c'est une question qui arrive à point nommé, je pense, au moment où on se questionne plus largement sur les intelligences animales et leurs multiples formes, et on remet aussi, là aussi, en cause la spécificité humaine, au moins dans ce domaine. Sur les progrès en préhistoire, je voulais juste ajouter à ce que disait très justement Jean-Michel, c'est qu'il y a des... Tout ne fonctionne pas au même, enfin dans les multiples domaines, hein, parce que c'est vrai que la préhistoire, c'est peut-être parmi les sciences humaines celle qui fait appel à au plus de savoir pluridisciplinaire, interdisciplinaire, je ne sais pas, on pourra en discuter. Tout n'avance pas au même rythme. Moi, on a connu hein, tous les deux cette période extrêmement enthousiasmante dans les études technologiques, comme on disait, dans les années 1970, 1980. Ça a bougé très, 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 très vite et très fort de ce point de vue, à la suite des travaux fondateurs de Leroy Gourhan, de Jacques Tixier, etc. Bon, je ne sais pas si tu partages ce constat, Jean-Michel, mais ça stagne maintenant un tout petit peu. On attend un franchissement de palier, un nouveau franchissement de palier dans ce domaine. Et c'est là aussi cette notion de percée, hein, je l'aime bien parce qu'elle est assez visuelle, elle est assez sensuelle, c'est qu'il y a des domaines où effectivement on perce, on perce ou on gravit un degré, ce serait une autre image. Tu parlais de la paléogénomique. Vous vous rendez compte que depuis maintenant une dizaine d'années, on commence à voir des façons d'objectiver cette grande question qu'on s'est toujours posée sur le rythme et l'ampleur des migrations humaines. Et on n'avait absolument pas les outils pour y répondre. On répondait d'ailleurs à côté à travers l'étude comparée des techniques. On s'est beaucoup trompé entre diffusion, convergence, etc. Et là, on a enfin des bons outils. Donc là, il y a vraiment une percée qui est gigantesque et qui va conduire aussi à sans doute des changements de paradigme. Et ça, vous savez qu'il y a toujours évidemment un décalage entre ces percées méthodologiques, les connaissances nouvelles qui sont acquises et les véritables changements de paradigme. On l'attend, le changement de paradigme. Moi, je vois à peu près dans quel sens il faudrait aller. Mais il y a encore un tout petit peu de chemin dans la théorisation aussi des connaissances qui ont été acquises dans les 10-20 dernières années.
Et pour le faire passer aussi au grand public, comment est-ce qu'on fait pour faire passer justement le pluriel, la diversité, tous ces changements? C'est complexe, Philippe, peut-être?
Alors, complexe, c'est un mot faible. C'est plus que complexe, et pour une raison que j'aime beaucoup votre question, parce que je pense que c'est pour moi une question absolument centrale, sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Je pense que la complexité, c'est qu'on est tous bloqués sur ce que j'appellerais le temps zéro. Et le temps zéro, c'est nos multiples façons de définir l'Antiquité. Alors, on est ou judéo-chrétien ou un petit peu païen, on va dire qu'on va remonter jusqu'aux Grecs. Soyons fous, il y a les Égyptiens. Et puis, encore plus dingue, il y a les Mésopotamiens. Mais tout ça, ça joue dans un panel de temps de 3 000 ans, quoi. Donc, c'est rien du tout. Et comme on est bloqué sur ce temps zéro que j'appelle l'Antiquité, en fait, ces temps extrêmement lointains avec des distances qui sont irreprésentables pour le grand public deviennent absconses. C'est-à-dire que quand on n'est pas familier avec ces questions-là, on dit 10 000, 20 000, 100 000 ans, on ne voit pas la différence. Voyez. Et donc, c'est pourquoi il faut parler des paléolithiques et des processus de néolithisation. Et il y a effectivement des paléolithiques parce que la première, la plus ancienne pierre taillée qu'on retrouve dans la culture lochmeyoyenne, elle est effectivement maintenant datée de 3,3 millions d'années. C'est complètement extravagant, sachant que le plus ancien fossile, au moins en partie bipède, c'est Toumaï. Il est à 7,2 millions d'années. Donc faites le calcul, ça veut dire qu'entre l'apparition de Toumaï et peut-être la plus ancienne culture matérielle retrouvée aujourd'hui avec les premières pierres taillées, il se passe 4 millions d'années. Donc quand on n'a pas ces critères temporels-là, très vite on ne comprend rien, donc on se rabat sur ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, j'ai grand plaisir maintenant, depuis plusieurs années, et quelques étudiants que je salue ici, qui me connaissent, sont là, ce qui me fait fort plaisir. Je leur dis que s'ils ne savent pas ce que veut dire 10 000 ans, 100 000 ans, qu'ils se rappellent qu'on est en 2023. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que ça suscite des questions? Peut-être, oui, je vois une main qui se lève. Merci.
Une question, parce que Boris Valentin, vous avez dit que vous voyez se dessiner un nouveau paradigme, que vous entrevoyez ses contours, et vous êtes arrêté là. Alors je crois qu'on est plusieurs à se demander qu'est-ce que vous voyez et quel est ce paradigme que vous voyez se dessiner. Voilà, merci.
Allez-y, Boris.
Je pense qu'on n'a pas pris la mesure encore de tous les décentrements qui sont en cours. On a parlé de la mondialisation des recherches. J'ai oublié de citer l'histoire des civilisations. Une histoire des civilisations, INRAP l'a découverte aussi. Ça, c'est un bouquin très, très important. Tu parlais de la façon de transmettre ça au public. Ça devrait être un ouvrage qui est offert à tous les professeurs d'histoire en France pour justement faire apprécier cette diversité des trajectoires. Donc il y a ça, il va falloir quand même tenir compte de ça, que c'est pas seulement le schéma européen qui vaut jusqu'à l'apparition de l'histoire avec un grand H. Il y a aussi un décentrement important lié à la diversité des humanités. On en est à une trentaine de paléo-espèces. Alors il y a des débats, hein, je sais pas si au final il y en aura une vingtaine ou une quarantaine. Puisqu'on disait encore une fois, la limite des paléo-espèces, c'est quand même pas très facile à fixer. Bon, enfin, néanmoins, il y a un buissonnement très important des humanités. Et donc ça suppose aussi de forger des outils particuliers, des outils éthologiques. Et là, je reviens aux travaux de Ludovic Slima, qui a ses bouquins aussi. Je fais un peu de publicité pour bon, il y a l'entretien dans notre livre, mais il y a Néandertal nu. Pour moi, ça a été un grand souffle d'air. C'est-à-dire d'aborder Néandertal. Et c'est un programme de travail qu'il définit. Mais c'est essayer d'aborder Néandertal en tant que tel et pas toujours indexé à Sapiens. Ce qui suppose d'évoluer sur une ligne de crête très étroite entre ce que j'appelle le sapiens centrisme, tout ramené à notre espèce, et le sapiens morphisme, projeté sur Néandertal, tout, hein, la pensée symbolique, le langage comme le nôtre, etc. Donc il faut agir face à Néandertal, face à Erectus, à Heidelbergensis et autres, en éthologue. Hein, donc c'est là il y a un décentrement qui est admettre que la diversité des humains et les outils que les éthologues utilisent pour tenter cette expérience limite qui est d'essayer d'interpréter des intelligences différentes des nôtres à travers le filtre de notre intelligence. Hein, voilà. Et puis j'en viens au décentrement, et ça renoue avec une question que vous avez posée tout à l'heure, au décentrement peut-être le plus important, c'est rompre aussi avec l'anthropocentrisme. Ce à quoi nous incite tout un mouvement intellectuel aujourd'hui autour des philosophes du vivant. Ce n'est pas un hasard à ce titre qu'on a invité Baptiste Morisot dans cet ouvrage. Par exemple, juste un exemple, hein, on en a discuté avec lui donc, récemment, il y a une... Et ça fait écho à ce que tu disais, Jean-Michel, tout à l'heure. Baptiste Morisot essaye de nous apprendre à prendre conscience de ce que c'est que vivre en minorité. Nous vivons en minorité. On est peut-être, je ne sais plus combien, 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre, mais on est environné d'une quantité d'animaux, de plantes, de virus, etc. Et il faut apprendre à cohabiter autrement, sans doute, avec ces autres vivants. Mais vivre en minorité, apprendre à admettre que nous sommes en minorité, ça a une toute autre dimension quand on s'intéresse à la préhistoire. Là, c'est une toute petite minorité, des micro-démographies en comparaison de toutes les autres démographies animales, les sociétés humaines étant des sociétés parmi toutes les sociétés, les autres communautés animales. Et ça, Jean-Michel y faisait référence, Philippe aussi, hein, y fait référence. Quand on commence à penser comme ça, on voit déjà autrement l'art du paléolithique récent européen. Hein, c'est évidemment un art de la minorité humaine, ce que tu disais. Voilà, donc là, on est au tout début, à mon avis, d'un changement probable de façon d'écrire la préhistoire qui a été jusqu'à présent beaucoup écrite comme l'histoire des longs progrès de l'humanité une et indivisible. Hein, voilà. Et là, on est en fin de cycle de fin de cycle intellectuel de ce point de vue. Il y en a un qui, à mon avis, s'amorce. Il faut réfléchir à ce que ça va changer dans notre façon d'écrire la préhistoire.
Si c'est la première pierre, c'est une sacrée belle pierre posée pour ce décentrement. Est-ce que ça suscite d'autres questions ?
Bonsoir. Bonsoir. Je suis professeur d'histoire et d'histoire de l'art ou des arts au lycée. Et comment faire pour qu'on donne plus de place en fait, à la préhistoire ? Parce que précisément, moi je vois les programmes, il y a un tout petit peu en primaire, il y a peut-être quelques heures au début du collège, et après c'est tout. Au lycée, j'en fais, mais par pur plaisir et par volonté d'en parler aux élèves, mais c'est plus un violondingue personnel qu'une obligation professionnelle. Sinon, les élèves ne savent même pas ce que signifie... Ce que représente le temps, même, par exemple, qui passe. Vous parliez tout à l'heure de cette difficulté à projeter le temps long. Et alors, parfois, avec un professeur de sport, on s'était amusé, dans la cour du lycée, à poser des jalons sur 100 mètres en disant, vous voyez, Jean-Jacques Hublin découvre un crâne au Maroc, le début d'une morphologie moderne d'Homo sapiens, 300 000 ans. Si on le met à 100 mètres, voilà ce que ça représente. Le Christ, c'est un pas, quoi. Je veux dire, c'était... comment ce qu'on fait politiquement et pédagogiquement pour introduire dans les enseignements quotidiens la préhistoire.
Sacrée question.
Bien, Nicolas. Oui, c'est une difficulté parce qu'il est tout à fait évident qu'enseigner la préhistoire à des enfants de 10 ans pendant 2 semaines ou rien, c'est pareil. Et on le voit bien, puisque moi, à l'université de Poitiers, j'ai des étudiants, donc je fais tous les ans, maintenant, depuis plusieurs années, des cours sur le rapport à la préhistoire, parce que je pense que ça a complètement modifié ma façon de penser la philosophie, donc je me prends pas pour un préhistorien, mais je pense que ça modifie fondamentalement les choses. Donc je vois bien les difficultés parce que mes étudiants, que ce soit en licence ou en master, ils ne savent rien au début de l'année. Mais à la fin, en 12 semaines de cours, oui, ils ne savent rien, mais c'est vraiment étonnant. Mais je vais être plus sévère. À l'université, j'ai des collègues, de philosophie, donc tout va bien. Dont un m'a dit récemment, et quand même, il n'est pas censé être ignorant, c'est un professeur des universités, très savant, donc, bon, bref. Ah oui, Philippe, ça ne doit pas être facile de travailler parce que sur la préhistoire pour toi, parce qu'il n'y a pas de documents. J'en étais un peu accablé, je dois dire. Parce que confondre documents et écriture... quand même, c'est le degré zéro de l'archéologie. Alors, une des réponses à votre question, c'est que, comme pas mal d'universitaires, on est régulièrement sollicité pour faire des conférences, des colloques. Depuis plusieurs années, je refuse quasiment tout, sauf quand on m'invite, y compris dans des lycées, dans des collèges, pour parler de préhistoire. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui sont très demandeurs. On est allé avec nos deux amis récemment à Serres en Charente faire une magnifique présentation. C'était extraordinairement vivant. On va à la grotte du Pêche-Merle très très bientôt. Il y a 2 ans, on m'a invité pour faire 3 conférences au lycée français de Barcelone. Alors, invitez-moi, je viens. Je suis allé au lycée d'Orléans pour faire une conférence et ça marche toujours très très bien. C'est là qu'il faut. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'en parler à des élèves de 10 ans parce qu'on n'a pas le temps. Mais ça a du sens d'en parler, de faire venir des gens qui ne sont pas forcément célèbres. Je suis connu de personne. Je ne suis pas Jean-Michel Genest. Mais c'est. Non, je ne donne pas le micro. Mais c'est important, en fait. Et je pense que là, il y a une bonne façon. Parce qu'on ne va pas. Je n'ai pas le moindre espoir sur la réforme des programmes. Hein. On est bien d'accord. Donc, voilà, invitez-nous, on vient. Et pas seulement moi, mes camarades aussi.
Non, moi j'ai espoir sur les programmes. J'ai d'autant plus espoir que la préhistoire en était totalement sortie. Jusqu'au néolithique. Hein. Il y a eu une époque où, pas si lointaine que ça, où effectivement, du point de vue des inspecteurs généraux, l'histoire commençait à Sumer. Bon, elle est revenue, dans la préhistoire est revenue. Donc moi, je m'en suis félicité, mais je ne pense pas qu'elle soit bien revenue. Elle n'est pas revenue au bon moment dans le cursus. Je pense que vous me confirmerez ce que disait un collègue de l'ESPE Paris, avec qui on avait un tout petit peu collaboré, pour essayer justement de c'est une demande de l'ESPE Paris auprès des archéologues de mon université, pour essayer de problématiser un tout petit peu justement les apports de l'archéologie au programme du secondaire. Et ce collègue me disait, on s'adresse à des enfants qui ne savent pas encore réfléchir, compter en négatif. Hein. Vous me confirmez ceci. Hein. Donc voilà, donc c'est quasi perdu. Du coup, je pense que c'est pas arrivé au bon endroit dans le programme. Et si vous connaissez des inspecteurs généraux, moi je prends leur numéro de téléphone, leur 06, si vous avez leur 06. Non, mais je plaisante pas. Moi, c'est un objectif que je me fixe. C'est d'en rencontrer et de discuter de cela, d'en discuter sérieusement, posément. Je pense, par exemple, qu'une bonne place serait peut-être en seconde. Alors, les collégiens n'en bénéficieraient pas, mais je veux dire, ceux qui en bénéficieraient en bénéficierait déjà avec des outils pour comment dire, pour en comprendre tous les enjeux. Et je crois que c'est un gros enjeu, effectivement, que nos jeunes concitoyens aient des notions dans ce domaine. Et je pense pas, je suis désolé Philippe, mais que ça se réglera à coup de petites conférences des uns des autres, même si ces conférences sont merveilleuses. Je crois qu'il y a un lobbying réel à exercer. Voilà, c'est pas ce numéro spécial de la revue L'Histoire dont je parlais tout à l'heure va dans ce sens, et j'espère bien qu'il va être célébré avec l'association des professeurs d'histoire et géographie. C'est encore en discussion, mais ça pourrait se faire. Donc c'est quelque chose de très sérieux, et je pense qu'il faut y travailler le plus possible ensemble. Pas forcément à l'échelon des invitations individuelles, mais un vrai lobbying. La préhistoire est dans les programmes du secondaire, mais il faudrait, je pense, trouver une autre place. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus.
Je ne veux pas prendre trop de place, mais juste en termes de temps, on est vraiment, enfin, ça a été rajouté. Voilà, ça a été. Il y a une ligne qui a été rajoutée. C'est tout. C'est absolument tout. Par exemple, en seconde. En première et en terminale, il n'y a pas une seconde qui est censée être consacrée. C'est uniquement quelques heures en début de sixième. C'est tout. C'est vraiment absolument le néant. En histoire de l'art, il y a un des thèmes qu'on doit utiliser, mais on doit choisir entre la préhistoire, Rome ou Athènes. Enfin, Athènes ou Rome. Bon, bah, la plupart des collègues prennent l'histoire antique et puis mettent la poubelle chauvée, alors que, voilà, c'est pas... C'est vraiment le néant.
Donc je pense aussi, comme Boris, qu'il y a un problème de lobbying qu'il faut faire. Ça, c'est tout à fait pas clair. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, dans les petites productions que j'ai pu écrire, j'ai intentionnellement écrit un petit livre qui est vraiment destiné à former, en quelque sorte, mes collègues de philosophie du secondaire. Et moi, j'ai fait du lobbying, pour le coup, auprès de l'inspectrice de l'Académie, qui est parfaitement d'accord. Et je suis très content de faire ça, parce que, en fait, ses collègues du secondaire, ils connaissent pas plus la préhistoire que les autres. Sauf que eux, en terminale, en philosophie, ils font un cours de philosophie de l'art. Et comme la plupart des profs de philo, dont je fus moi-même il y a quelques années, d'ailleurs, ben, ils ont tendance à faire commencer l'art... dans l'Antiquité, quand c'est pas à l'époque médiévale. Donc, voilà, ils ont juste 40 000 ans de retard. Donc, 40 000 ans seulement. Hein. Donc, ça, c'est aussi possible. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire former aussi les formateurs.
On va arriver à la fin de cette rencontre. Je peux que soutenir cette question-là. Oui, allez-y, bien sûr, on peut...
Est-ce que vient de dire Philippe Rousseau, est-ce que j'ai l'impression que les choses sont pipées dans la mesure où c'est tout les séparations disciplinaires à l'université qui sont en jeu. Est-ce qu'il faut garder le titre de préhistoire alors même, et de préhistorien alors même qu'on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, mais peut-on produire en tant qu'universitaire un acte aussi lourd de conséquences de dire que non, je débaptise. Débaptiser, c'est beaucoup, c'est faire beaucoup de choses. Mais faire la critique, c'est la chose vraiment importante, et je dois dire que vous écoutez est vraiment rafraîchissant, parce qu'on a l'impression d'une sorte de sursaut d'eau vive qui coule. Enfin bon, quand c'est archéologie qu'on confond si facilement, même quand on est philosophe, avec une archéologie métaphorique qui n'a rien à voir avec les techniques archéologiques. Bon, tout ça, c'est extrêmement fatigant, parce que on se dit de plus en plus, mais voilà, tout ça, c'est pipé, dans quel lieu je me suis fourré. Et alors, je remarque, ça m'a frappé, qu'il y a une solution sur laquelle on tombe avec ravissement. C'est beau. Bon. Mais c'est beau. Je me souviens une formule d'Anna Arendt qui était bien explicite sur ce sujet. Elle disait « Bien des auteurs ont survécu à des siècles d'oubli, mais il est à se demander s'ils survivront à la version divertissante qu'on prétend donner de leur travail. Bon. C'était bon, parce qu'on s'aperçoit que le beau est un alibi. Bon, c'est pour ça que je me suis tellement intéressée au sublime, parce que justement, le sublime est moins un alibi, ou devrait être, ou un alibi d'une autre forme. Je dois dire qu'on peut trouver, on peut trouver plusieurs attitudes très, très différentes à ce sujet. Mais en tout cas, aussi, ce qui m'a plu énormément dans cette discussion, c'est le rôle du pluriel face au singulier. Voilà, merci.
Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, mais on pourra continuer de l'autre côté, acheter le livre, évidemment, parce que moi je trouve que voilà, j'ai eu la chance de vous recevoir au printemps, j'ai eu la chance d'y revenir là cet automne, et je suis loin d'avoir fini, d'avoir tiré tous les fils. Et je voudrais aussi dire peut-être aux professeurs qui nous écoutent que nous sur RFI, dont on a la question, on fait régulièrement des émissions préhistoire et que ça, enfin préhistoire, voilà, j'appelle ça comme ça, et dans tous les sens. Et ça fascine les auditeurs, quel que soit leur âge, leur lieu. On s'adresse beaucoup en Afrique ou ailleurs. Donc voilà, ça marche quand on, quand on met le petit doigt dedans. C'est formidable. Donc merci de nous avoir aidés à décentrer le tout. Hein. Et je rappelle le titre de ce livre. Oui, Nouvelles frontières de la préhistoire. Merci. Et merci à vous.
Tout ceci, cette réunion a été possible uniquement grâce au travail attentif entre les auteurs que nous sommes, mais très modestes, et les compétences du service éditorial de la Maison des sciences de l'homme, que nous devons absolument remercier chaleureusement.